Alors, on va enchaîner
Avec
avec.
Philippe. Je vais essayer de faire 45 minutes max. Question comprise.
Oui, donc Philippe a été favorisé parce qu'on a mandé une communication, donc on a augmenté son temps pour la pâtée.
C'est surtout que je voulais passer beaucoup de musique, en fait. Et c'est ça qui est important. Donc, l'idée, c'est de Marquis de Sade à Marquis de Sade, puisque Marquis de Sade s'est formé en 77 et Marquis de Sade se reforme en 2017. Donc, j'avais pas envie de faire un parcours historique de Marquis de Sade parce que pour ça, il y a ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien,
Très bien.
qui est extrêmement complet. C'est un bouquin avec énormément d'images, de choses comme ça, de documents de presse de l'époque, etc. Et donc, l'idée, et même le bouquin que je prépare sur Marquis de Sade, sera vraiment plus axé sur la musique et les ramifications musicales en termes de style, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais plus parler de post-punk, de new wave et de pop que de punk à proprement parler, même si parfois on va revenir dessus. Le premier élément, c'est Marquis de Sade se forme en 77. On a d'ailleurs un batteur. Pierre Thomas, qu'on retrouvera après dans l'histoire. Oui.
On a des légères coupures quand tu parles, Philippe.
Oui, je sais, moi aussi, et je comprends. Enfin, moi, non, je ne me coupe pas quand je m'entends, mais je ne sais pas quoi faire, à vrai dire, parce que j'ai une mauvaise connexion.
T'entends, ça va là.
C'est bon, là?
Ouais.
Alors, j'espère que vous allez entendre la musique, en tout cas, parce que Serge Papaye, qui a remplacé Dargelos au début de Marquis de Sade, a reçu un jour une cassette de Franck Darcel, ou il m'a donné, enfin peu importe, avec des démos. Et la mission de Serge Papaye, c'était d'écrire les lignes de basse de ça. Serge Papaye a participé au premier album, mais c'est lui qui a écrit un certain nombre de lignes de basse de tout ça. Et voilà, je pense, à moins qu'il y ait des pirates qui traînent, des gens qui ont enregistré sur cassette des concerts avant, le tout premier document sonore de Marquis de Sade, c'est Franck Darcel, dans sa chambre ou dans je sais pas quoi, en train d'enregistrer avec un petit magnétophone une chanson qui va devenir Skin Disease. Alors, vous avez du son, vous n'avez pas de son?
On n'a pas de son.
Vous devriez. Je vais couper le micro, peut-être que ça passera.
Eh ben non, si tu coupes le micro, comment tu veux qu'on t'entende? T'entend plus là, faut que tu remettes le son. Remets ton son. Ah, eh ben t'as plus de son là.
Voilà.
Ah.
En fait, j'aurais dû faire comme Flavien, j'aurais dû m'enregistrer, ça aurait été cool.
Mais normalement, si tu diffuses de la musique dans ta pièce, on va l'entendre.
Bah, théoriquement, oui. Oui. Donc, je l'envoie. On va vite arriver aux 45 minutes hein, avec des temps morts comme ça.
Mais toi, tu l'entends la musique?
Non, non, parce que je bug énormément aujourd'hui. Comme de par hasard, évidemment. Bon, je profite du silence quand même pour dire que depuis hier soir, je sais que c'est enregistré, tu couperas si tu veux couper. Je suis extrêmement en colère par ce qui s'est passé, par le fait qu'on puisse tuer quelqu'un au prétexte qu'il présente des choses légitimes et que le blasphème, ça n'existe pas en France. Alors, toujours rien. Bon, bref, on va passer, j'essaie de revenir là-dessus. Donc, il y a les premières démos. C'est assez intéressant parce qu'on entend Darcel qui est en train de dire voilà, alors le nombre de couplets sur ce morceau, c'est pas fixé, c'est pas définitif. Et puis après, on a effectivement la musique qui devient celle de Skin Disease. Alors, le premier album de Marquis de Sade, c'est celui-ci, Dancing Twist. C'est un original hein, que j'ai là avec un joli autocollant Motorock. Donc j'ai jamais compris à quoi il servait, mais il y avait plein de disques avec ça, c'était pas forcément du punk, du post-punk, il y avait un truc, une promotion sans doute autour de ça, donc je l'ai acheté comme ça. Et on est sur un album qui est très influencé quand même par une espèce d'atmosphère germanique de l'Allemagne de Weimar, il y a des références à Conrad Veidt, le titre d'un morceau, etc. On est sur un son très très sec, et Philippe Pascal m'avait dit que lorsque l'album est sorti, il y avait deux choses qui lui avaient déplu, d'abord le son, disons que c'était pas produit, et que le son était brut, qu'il n'y avait aucune production. Et puis, ça et ça. Ça, ça lui avait déplu au plus haut point parce que ça avait une symbolique qui était quand même assez curieuse pour lui. Et il avait détesté ça. Alors ça, c'est un entretien que j'ai eu avec lui la première fois que je l'ai rencontré en 2011. J'ai 4 heures d'enregistrement comme ça, de discussion avec Philippe Pascal. Je ne vais pas tout livrer là, mais il a beaucoup parlé avec moi de la difficulté de créer, de la difficulté d'écrire, etc. etc. Et on sait aujourd'hui quelle a été la difficulté pour lui d'écrire les textes du troisième album. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? J'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a des choses comme ça. Et puis, les choses, assez rapidement, partent un peu en vrille parce qu'on a une discorde qui se crée entre Franck Darcel et Philippe Pascal au sujet de la destination. Et même récemment encore, dans des interviews au moment du concert de 2017, il y a à un moment donné Franck Darcel qui parle d'une musique un peu plus dansante et Philippe Pascal l'interrompt en lui disant « Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire qu'un groupe va dans cette direction sans que tous les membres du groupe soient d'accord. » Et lui, la musique pour faire danser les gens, ça ne l'intéressait pas. Alors peut-être qu'on peut passer au 3, au YouTube de Skin Disease pour avoir un peu de musique qui va donner une idée de ce qui était…
Alors il y a la pub, hein, t'inquiète pas.
Voilà, c'est ça dont on aurait dû avoir la démo sans la ligne de presse.
Je me dis quand j'arrête, hein. Voilà, bon, on va pas les passer en entier, hélas, puis je crois que le son n'est pas terrible sur cette vidéo. Bref, lorsque sort le deuxième album, précédé par un 45 tours assez magique d'ailleurs, hein, un morceau qui s'appelle Rhythmic, mais surtout il y a une reprise de White Light, White Heat du Velvet Underground, qui est quand même une référence absolue. La référence absolue dont m'avait parlé Philippe Pascal pour lui au moment de son entrée... évidemment, dans le groupe d'avant et puis dans Market Sad, c'est Hunky Dory de David Bowie. S'il y a un album de David Bowie qu'il m'a cité en référence, c'est Hunky Dory, c'est absolument celui-ci. Et évidemment, le Velvet. Mark Seberg, après, va faire partie d'une compilation, Les Enfants du Velvet, fin des années 80, début des années 90. Mais déjà, avec ce 45 tours, on a aussi musicalement, et je reviendrai là-dessus, dans le morceau qui s'appelle Rhythmic, une modification. J'en avais parlé à Rennes. On a souvent dans l'écriture de Franck Darcel une écriture sur bourdon avec un thème qui va être sur deux notes en fait, et un bourdon, et puis la mélodie qui se crée au-dessus et qui va créer un sentiment harmonique. Ici, ce bourdon des rythmiques commence à se transformer en même principe d'écriture, mais on va plutôt jouer sur des arpèges. Qui est Back to Cruelty. Et ça va être une technique d'écriture qu'il va avoir et qu'on va retrouver dans le deuxième album, qui cette fois-ci est extrêmement produit. C'est-à-dire qu'on a une production qui est bien plus fouillée, bien plus travaillée. On a un son effectivement qui est considérablement modifié et différent, beaucoup moins brut que celui du premier album. Et Ruthiam, c'est l'album de la séparation. Donc là, Market Sad n'existe plus. Que font les uns et les autres? Ils n'arrêtent pas évidemment leurs parcours musicaux. Et le premier groupe dont je vais parler à la suite de ça, c'est celui qui est formé par Franck Darcel, qui est Octobre. Alors, Octobre sort là un mini LP 6 titres, on n'est plus du tout dans du punk, évidemment, on est plus dans l'esprit du Market Sad de Ruthiam. Et d'ailleurs, si on regarde les musiciens qu'il y a dessus, je ne sais pas si vous les voyez bien, ils sont par là,
En fait, c'est les musiciens de Marquis de Sade avec un nouveau chanteur, tout simplement. On retrouve Morinière, on retrouve Thierry Alexandre, on retrouve Franck Darcel, et le chanteur qui s'appelle Eric Lanz, qui est ici. On retrouve aussi Arnold Turboust. Arnold Turboust qui est ici et qui a joué dans le premier album de Marquis de Sade et qui avait formé un groupe aussi à Nantes qui s'appelle Private Jokes avec dedans Pierre Corneau et Pierre Thomas qui est parti de Marquis de Sade est allé former ce groupe à Nantes et je n'ai pas prévu d'en faire écouter mais récemment Pierre Corneau a posté des images de cette époque 80-81 où on les voit tous avec cette chose-là. Ils ont fait une télé avec un morceau qui s'appelle « 4 jours à Bangkok » et ils ont été approchés par une maison de disques, mais ça n'a pas donné grand-chose au résultat. Et donc, Private Jokes s'est séparé aussi. On parle quand même d'eux dans le Rock à Nantes de Best, là, dans cette fameuse série Rock Art, Rock Arena, Rock à Nantes, Rock, etc. Donc, Top va se séparer de son premier chanteur et va sortir un deuxième album, là, qui est plus un album, qui s'appelle donc Paolino Park. Et dans Paolino Park, on va avoir comme chanteur un certain Patrick Vidal. Et Patrick Vidal, c'était un membre de Marie et les Garçons. Et de Garçons. Donc là, on a pas du tout un reggae, pas du tout un breton, mais une sorte d'alliance de scène musicale. Alors, j'ai prévu de faire écouter un bout d'octobre. On va écouter un morceau qui s'appelle Acteur du Monde, qui est parti dans le premier single du premier mini LP. Et l'esthétique, on est plus proche donc de certains titres du deuxième Marquis de Sade, mais Octobre ne va pas avoir une carrière très très longue parce que Darcel va se muer en compositeur et aussi en producteur. Et le personnage de la scène rennaise qui va émerger grâce notamment à Franck Darcel et aussi avec l'aide d'Arnold Turboust après, qu'on revoit là, c'est Étienne Dao. Et si on écoute le morceau qui suit, qui est tiré de Mythomane qui s'appelle L'été, il y a très longtemps à Franck Darcel, quand j'ai voulu commencer à travailler sur Marquis de Sade, et je lui avais dit c'est très curieux parce que l'été, musicalement, ressemble à un morceau de Marquis de Sade, ressemble à rythmique, ressemble à Back to Quality dans l'écriture musicale. Et Darcel, à cette époque, m'avait répondu bingo, c'est un morceau qui était prévu pour le troisième Marquis de Sade, et qui donc n'a jamais eu lieu, et du coup, bah, c'est Dao qui a bénéficié de ce morceau. Ça s'appelle L'été. Si vous écoutez le morceau, vous allez entendre du Marquis de Sade.
Avant cette cloison, pour ouvrir ma cuisine sur le sable.
Après la publicité.
Arrête-y, personne n'arrête sur la tuche, t'as compris? Tu dis les tuches, partenaires solidaires de l'association, Ariel, c'est tout.
Ça, c'est complètement de la musique de Marquis de Sade.
Thank you.
Voilà donc pour Étienne Dao, composition de Tarcel, production de Jacques Nau. Donc là aussi, on est sur des croisements de scènes qui sont assez intéressantes. Et encore une fois, le rôle d'Arnold Turboust. Alors, parce que j'aime beaucoup Arnold, parce que je trouve que c'est un bon musicien, j'ai voulu passer un petit bout d'Adélaïde, parce que lui va ensuite avoir ce morceau qu'il avait proposé à Dao. Dao, on n'a pas voulu. Il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Et lorsque un directeur artistique de chez Virgin, sans doute, a demandé à Turboust à quelque chose, je lui ai dit, j'ai ça. Et le directeur artistique lui a dit, il faut que tu l'enregistres toi. Et donc, ça a donné ce tube impérissable de Turboust, Adélaïde, un tout petit peu. Avec Zabou Bretman.
C'est classifié en pop kitsch.
Ouais. Tout ça pour dire que cette scène, et encore, je m'étais dit, est-ce que j'en vois pas avec Joke ou pas, elle part de cette scène punk rennaise. Il y a des gens qui viennent jouer comme ça, à droite, à gauche, et puis qui ensuite s'écartent, mais vont vraiment vers la pop. Alors, pop kitsch, je laisse, je crois que c'est LCM, je ne sais plus quelle chaîne, le classifier comme ça, kitsch ou pas kitsch, il n'empêche que on est chez des gens qui... avec Dao, avec Turboust, avec Darcel, vont sur cette scène-là. Et alors, parallèlement, évidemment, il y a ce que va faire Philippe Pascal, qui ne voulait pas une dérive dansante, qui ne voulait pas manifestement une dérive pop dansante, en tout cas dans la musique, et qui va reformer un groupe qui a d'abord été une sorte de private joke, si je puis dire, et qui reprend le nom d'un personnage qui revient souvent dans les textes de Marc Itzel, qui s'appelle Marc. Il retrouve Serge Papaille au départ sur Marc Sévert, et puis il va retrouver pour le premier album, 83, qui est absolument monstrueux. Vraiment, il retrouve Pierre Corneau, ici, qui était dans le Private Jokes, et il retrouve Pierre Thomas, qui était le batteur au tout début de Marc Itzel, et puis un compère de toujours, un véritable ami pour Philippe Pascal, Anzia. Qui s'appelle Gilles en réalité, mais qui aujourd'hui est plutôt parti dans la et qui a un peu écarté tout ça, mais qui a été aussi au début sur le premier album de Marc Itzel. Il a quitté Marc Itzel, a été remplacé par d'autres guitaristes, notamment Frédéric Renaud, qui est décédé depuis, et il est revenu quand même avec Philippe Pascal sur Marc Sévert. Et Marc Sévert, en fait, j'ai demandé, c'est la 8 hein, cette fois-ci, Solveig, on reviendra sur la 7 après. J'ai demandé tout simplement à Pierre Corneau laquelle chanson tu voudrais qu'on passe, laquelle te ferait plaisir, et il me dit j'aimerais que tu diffuses Je t'accorde, réalisé par Joe Pinto Maya. Donc c'est le choix de Pierre Corneau sur Marc Sévert. C'est un morceau extrait du tout dernier album de Marc Sévert qui s'appelle Le bout des nerfs, que je n'ai qu'en CD celui-ci. Voilà.
Juste après la publicité.
Juste après la publicité.
Mais c'est bon, son biche,
dans les années 60, on vous simplifiait la vie. Yeah.
C'est ça, fallait que je coupe ?
Non, non, il fallait le laisser celui-ci, mais c'est pas grave, on en laisse un.
Je le remets, t'inquiète. Ah.
Entendez toujours ?
Oui, oui. Ouais, bon.
Donc, ce morceau de Marc Seberg. Marc Seberg a sorti, il y a eu une chose importante qui s'est passée dans Marc Seberg, c'est l'arrivée officielle de Pascal Lebert. Alors, Pascal Lebert avec la compagne de Philippe Pascal, mais ça c'est vraiment très accessoire. Simplement, elle arrive avec des claviers et le son de Marc Seberg va en être transformé du coup, avec l'apparition de ses claviers, des synthés, etc. Comme on l'a entendu dans ce morceau, elle va avoir vraiment un rôle assez important. Et je crois que l'album du sommet de la carrière de Marc Seberg, c'est celui-ci, Lumière et Trahison, qui est l'album super produit, etc., qui était destiné à leur faire casser la baraque, mais manifestement, ça n'a peut-être pas suffi. Et donc est sorti le bout des nerfs par la suite. Et ça, c'est l'album vraiment de la fin dont on vient entendre un morceau, qui pourtant, je veux dire, c'est sorti en 1990, aurait dû fonctionner normalement. Alors, on ne sait pas à quoi ça tient, hein, pourquoi un morceau marche ou ne marche pas, surtout quand on est chez Virgin. Peut-être qu'il n'y a pas assez de promo de la part de Virgin, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que, etc., etc. Mais enfin, le fait est que Marc Seberg doit se séparer, ce qui n'empêche pas Philippe Pascal, et on va écouter aussi quelque chose d'eux, de faire un album, tous les deux, qui est vraiment un album, je crois, qui n'est pas assez connu et qui est assez fantastique, qui s'appelle Philippe Pascal, hein, qui est vraiment le disque qu'ils ont sorti tous les deux et il y a de très très belles choses. On va les voir, encore une fois, comme Octobre tout à l'heure, c'était dans une émission d'Alain Manval, dont je crois qu'on ne souligne pas assez le rôle dans l'aide qu'il a pu apporter à tous ces groupes. Et là, on le revoit dans une, on va aller voir Philippe Pascal dans une autre émission de Philippe Manval, et je crois que Alain Manval, pardon. Et Alain Manval est un personnage qui a beaucoup compté et œuvré pour ces gens-là à cette époque-là. Donc, on regarde Philippe Pascal. Thank you. Voilà, donc Pascal Lebert, qui continue à œuvrer dans le monde de la musique, hein, il habite à Paris maintenant, a apporté aussi le timbre d'une voix féminine qu'on a dès Le Chant des Terres, dès le deuxième album de Marc Seberg. Il y a des chœurs qui sont faits par elle, et donc il y a une dimension du timbre. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça aussi, hein, à tout ce qui est la morphologie sonore autour des groupes, et pas simplement aux accords, etc. Mais Philippe Pascal, ils vont connaître des chemins personnels différents par la suite. Et Philippe Pascal reste à Rennes. C'est à cette époque-là, je pense, qu'il va se retrouver dans la pharmacie de sa femme. Mais il revient quand même sur la scène musicale à un moment donné avec le Blue Train Choir, où cette fois, ils essayent de faire une sorte de blues, un petit peu. Et là aussi, j'ai prévu une petite vidéo pour qu'on voit. Et je crois que sur la vidéo, Philippe Pascal, si c'est celle que j'ai bien retenue finalement, explique.
C'est bon, je m'écoute.
4 ans, j'avais joué pour le 20e anniversaire des Trans avec une formule électroacoustique. Vous attendiez qu'on avait joué dans une règle. Et ce soir, j'ai monté un groupe blues électrique, très très électrique et très très roots. En fait, il y a deux guitares et une batterie et roulé jeunesse. Et on reprend du blues d'Alabama, Texas et Mississippi, bien évidemment. C'est vraiment le hasard qui a fait enfin, tiens, si on se met à faire du blues d'abord pour s'amuser cet été. Et puis voilà, et puis on remonte sur les scènes, on a fait un concert il y a une semaine, et plus c'est fini.
Voilà, donc un très très court extrait de reportage. Moi, je trouve que son espèce de blues complètement électrique, il a une énergie quasiment punk qui se retrouve pratiquement, il joue du truc. Il reprend aussi That's All Right Mama, le beat fondateur du rock'n'roll, Elvis Presley 54, etc. Pick a Bale of Cotton dans l'album, John Henry, Lord I Wish I Was in Heaven, enfin que des traditionnels blues, mais qui sont joués avec une énergie quasi punk, hein, si on peut le dire comme ça. Il y a juste un morceau qui s'appelle With Me Now, qui était un nouvel enregistrement studio qui avait été fait par ce groupe-là. Donc le Blue Train Corps, puis après, Philippe Pascal disparaît un petit peu de la scène. C'est à ce moment-là, moi, que je commence à vouloir travailler sur Marquis de Sade. Et on me prévient, on me dit, tu sais, on le voit, il est en train de errer dans les rues de Rennes, tout ça, mais il ne veut plus entendre parler de ça, c'est un ours, machin, etc. Enfin, je tente quand même le coup en passant justement par le producteur, par le manager en tout cas de Blue Train Corps, puisqu'il y avait une page officielle à cette époque-là. Et Philippe Pascal accepte de me rencontrer, et j'ai pas du tout trouvé l'ours ou la personne qui voulait pas parler, etc. Enfin, je veux dire, il avait fait quelque part une sorte de je sais pas comment dire ça, mais voilà, il avait assumé son passé quand moi je l'ai rencontré, et donc il pouvait reparler à nouveau de Marquis de Sade, de Marc Seberg. Et j'ai rencontré aussi Pierre Corneau, qui m'avait proposé, je le dis parce que c'est vrai et que j'ai l'enregistrement de ça, donc de toute façon je peux le prouver à qui veut l'entendre, de refaire Marc Seberg en 2013, et de rejouer pour le 30e, 40e anniversaire de l'album, 30e, de rejouer Marc Seberg. Mais comme il savait que Anzia serait... ne voudrait pas le faire seul, il avait demandé de prendre la guitare. Et là, c'est Philippe Pascal qui a refusé de faire Marc Seberg en 2013, c'est-à-dire de reprendre ce groupe auquel, au fond, il tenait presque plus, m'avait-il dit, que Marquis de Sade. Donc je ne sais pas comment Poche a réussi à le convaincre, comment ils ont réussi à le convaincre de refaire Marquis de Sade en 2017. Mais quoi qu'il en soit, ils ont refait Marquis de Sade en 2017 pour un concert qui devait être unique. C'est-à-dire que c'était l'événement de la scène rennaise. J'ai fait le voyage, j'y étais, au premier rang, je voyais pour la première fois de ma vie Marquis de Sade sur scène, un groupe qui me suivait depuis 1980, mais que je n'avais jamais vu en concert. Donc c'était, quelque chose qui était assez formidable. Et dans la salle, je me souviens très bien avoir croisé Dao, Obispo, Dominique A, enfin, tous ces gens étaient là, quoi. Et ils étaient venus pour cet événement, et sur scène, en finale, il y avait Dargelos, il y avait Papaye qui avait été, dans Marquis de Sade, d'une manière plus ou moins, qui sont venus pour le final. Et c'était un événement vraiment fantastique qui devait rester unique et qui ne l'est pas resté. Donc là, encore une fois, il y a eu une tournée derrière, il y a eu un certain nombre de concerts en 2018, en 2019, je crois. Il y a eu toute une effervescence qui s'est créée autour de ce groupe et de cette reformation. Ils sont allés faire les vieilles charrues aussi. Et donc, ce que je voulais montrer quand même pour la reformation, c'était, on passe aux 12, s'il te plaît, c'était Silent Word, justement. J'ai pris, c'est pas la vidéo officielle, mais j'ai pris cette vidéo-là parce que c'est exactement l'angle.
Je n'ai pas le 12, il y a marqué de chez moi. Donc, chez moi, c'est chez toi.
Attends, de chez moi. Non, il y a un 12 au-dessus, regarde, il y a deux 12 en fait. Silent World.
Non, je ne l'ai pas.
Oh.
Ah, si, pardon, ok, pardon.
Ah, on a le même. Voilà, donc pendant la pub, j'ai pris cette vidéo parce que c'est là où j'étais placé par rapport à la scène et où donc j'ai pu voir ça. D'ailleurs, le caméraman, il m'emmerdait parce que des fois, il me cachait un peu la vue. Mais de Marquis de Sade. Juste avant ça, Franck Darcel, qui a été un temps et qui est toujours écrivain, hein, qui a sorti 4 ou 5 romans, le dernier s'appelle Vilaine blessure, il en a un qui est prévu, Vilaine blessure qui est un excellent polar, hein. S'il y a des gens qui aiment les polars, je vous invite à lire au moins celui-ci, mais il y en a pas mal d'autres aussi qui sont tous très très bons, vraiment, c'est assez curieux parce qu'il n'écrivait pas les textes de Marquis de Sade, mais c'est un écrivain et il sait écrire, ça c'est indéniable. A fait un autre groupe. Entre-temps, alors là, je ne sais pas du tout ce qu'il devient, s'il est toujours vivant ou pas, avec Marquis, c'est République. Donc, il est sorti ça et qu'il avait sorti un bel album. Et on a aussi un peu de musique de République à écouter, qui est... Il faut remonter au numéro 7. Darcel avait fait aussi des albums solo, donc dont celui-ci, qui est très très bon aussi. Je crois que j'ai trouvé la solution pour vous faire entendre le son que j'ai d'ici. Voilà un morceau de cet album solo qui s'appelle « Les liqueurs de la vie ». Là, il chante.
Ça va.
Alors du coup, je vais peut-être vous faire écouter la démo, puisque maintenant je peux.
Oui.
Bah, si vous entendez un peu, si vous n'entendez pas beaucoup, c'est pas la peine. Hein, mais, Donc c'est Skin Disease hein, qu'on a entendu tout à l'heure. Darcel, tout seul à la guitare, ça piole. L'acte de création en direct, pratiquement, voilà, j'ai un riff pour le couplet, j'ai un riff pour le refrain, je ne sais pas combien on va en mettre. Dans le morceau final, il y a aussi un pont qui rejoint, enfin, un pont assez bruitiste, mais qui rejoint aussi ce que je dis la plupart du temps lorsque j'analyse, c'est-à-dire qu'il y a un type qui arrive avec des accords, et puis il y a un groupe qui joue derrière. Et le groupe qui joue derrière fait le morceau, en fait. C'est-à-dire apporte des choses. Je ne sais pas l'expérience des Perrues, François, si tu peux en parler dans ce sens-là, mais quand nous, on travaillait, j'apportais des accords. Et c'est ce que faisait le clavier, ce que pensait le batteur, etc. Même sur des indications qui faisaient que le morceau ressemblait à ce qu'il était après. Et donc, je pense que même si on a conservé les bases de Papaye, c'est quand même Morinière, c'est quand même Alexandre, c'est quand même... Et puis, deux gars aussi qui sont venus dans Marquis de Sade passer un temps et qui ont énormément fait, qui étaient deux saxophonistes. Hein. Il y avait Philippe Delacroix-Herpin et Daniel Pabeuf. Et quand on écoute les lives, ce qu'on trouve en live, il y a une page Facebook où ils en diffusent souvent, souvent par l'intermédiaire du fils, d'ailleurs, Pierre-Jean Pascal de Philippe Pascal, mais pas uniquement. On se rend compte que les morceaux évoluaient énormément et que les saxophonistes sur scène en 80-81 ont eu un rôle absolument fondamental, à tel point aussi que ces deux saxophonistes ont sorti un album mais assez barré quand même, qui s'appelle voilà, celui-ci, qu'on trouve rarement. Hein. Nous deux, Philippe Herpin, Daniel Pabeuf, Hanche, plus cool, etc. Qui est un excellent disque, mais alors complètement free, si je puis dire. Pour finir, presque, j'aimerais qu'on voit très rapidement deux groupes qui sont nés pratiquement en même temps que Martin Sad et qui sont nés par le rock des... Pardon ?
Rapidement.
Oui, rapidement. On va voir des extraits de L'Énu, le numéro 10, et de Fracture. Je te laisse les mettre à la suite. Ouais. Ce sont des productions récentes de ces deux groupes qui viennent de se reformer.
C'est pas ça. Non, je fais des bêtises, pardon.
Ah oui, c'est une manche du temps.
Excuse-moi.
Ça, c'est L'Énu, avec Pierre Corneau, qu'on vient de voir. Ancien.
Ces images du passé que tu voulais brûler, à jamais sacrifier, ce dont tu sais, ce que tu es.
Sorti un album hein, au début des années 80. Fracture n'avait sorti qu'un 45 tours qui s'appelait Sans visage. Et voilà l'extrait de leur dernier. Voilà, excellent disque, hein, je le dis, et je ne le dis pas simplement parce que papa, que j'ai rencontré lorsqu'on a fait la journée à Rennes, et on est resté en relation depuis, extrêmement amical, et est un type bien, mais parce que ce disque était produit par Dave Allen, qui a été le producteur de Cure, sur The Top, sur The Head on the Door, etc., etc., a produit cet album, et c'est la première fois, je crois, m'a dit Sergei, qu'ils enregistrent et sont produits, et réellement produits par un producteur. Je voudrais terminer par un morceau qui est, parce que évidemment, septembre 2019, on apprend la mort de Philippe Pascal, et donc le projet Marquis de Sade d'un nouvel album studio, du coup, tourne court. Mais le groupe qui reste, c'est-à-dire Alexandre Morinière et Darcel, décide quand même de continuer le chemin et d'engager un nouveau chanteur qui sont allés chercher en Belgique. Un chanteur dont Franck m'a dit qu'il ne connaissait absolument pas Marquis de Sade, il ne savait pas du tout, enfin, il ne connaissait pas les disques, pas les chansons. Et il décide de s'appeler Marquis. Et donc, on est dans une reformation des formations quelque part, parce que Marquis, C'est les musiciens de Martin Sade, mais sans les textes, sans la voix et sans le chant évidemment de Philippe Pascal. Malgré tout, et ça j'aimerais qu'on l'écoute en entier, il dure 3 minutes 26, Franck Darcel m'a, en avant-première de tout, avec l'accord d'Universal, qui est le distributeur et tout, envoyé le maxi qui va sortir d'ici un mois, je crois, ou peut-être un peu moins. Et je voudrais vous faire entendre le morceau qui s'appelle European Psycho. Il m'a envoyé, je lui ai pris en entier et on voit. Et comme un risque pour le piratage.
Merde.
Voilà un morceau assez heavy, hein. La phase B, enfin la phase B de ce qui devrait être la phase B de ce qui devrait être ressemble, en tout cas, est un hommage au son de Markit Sade de Rutsiam. Hein. Mais là, on voit qu'ils sont partis sur vraiment un autre chemin avec un nouveau chanteur qui a une autre voix, qui a une autre façon de chanter. Et donc, Markit, on verra ce que donne l'album. Moi, j'attends rien, j'attendais rien, comme je disais à Franck. Donc, en attendant rien, je ne peux pas être déçu de quoi que ce soit. Et je sais qu'il y a sur les réseaux des gens qui trouvent qu'il aurait dû prendre un autre nom. Bon, on verra bien. Je remercie officiellement Franck Darcel. Et puis, je ne voudrais pas terminer sans avoir un petit mot d'abord pour Philippe Pascal, qu'à chaque fois que j'ai rencontré, a été un type immense charmant. et pour Dominique Sonic aussi, qui est parti il y a peu, et je l'ai peu connu, mais ce que j'ai eu l'occasion d'avoir comme relation amicale avec lui, toujours été absolument fantastique. Voilà.
On y a pensé hier parce qu'il aurait dû jouer à la release party de Strychnine déjà à Bordeaux en janvier, mais il était trop malade. Et puis on est allé à ses obsèques au mois de juillet. C'était, voilà, il y avait toute la grande famille du rock rennais. C'était ultra émouvant. Et voilà, et je pense qu'on va, grâce à sa. Cathy, c'est comme ça qu'elle s'appelle, sa femme, on va. Je pense qu'on va travailler sur ses archives. En tout cas, on va en discuter sérieusement.
Ouais, ouais. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était un peu chaotique. Bon, c'est vrai que Solveig, tu m'as demandé ça il y a 10 jours. Mais en même temps, l'histoire de la scène rennaise est chaotique aussi, avec je vais, je reviens, je me reforme, je me déforme, etc. etc. Donc, voilà. Merci.
Merci beaucoup. Bravo.
On va peut-être prendre pareil 5-10 minutes pour réinterroger ton excellente communication. Moi, je suis assez frappé. Enfin, le modèle que tu as choisi de communication, c'est finalement d'éclairer une espèce d'arborescence à partir de Marquis de Sade. Et, alors, je me demandais si tu allais parler des nus. Tu l'as fait à la fin parce que c'est oui. avec D'Argelos qui était aussi présent hein, sur la journée peint de Rennes. Et, oui. Et qui était surnommé le premier punk rennais. Alors, premier punk rennais, parce qu'en fait, c'était le premier à être allé en Angleterre. Il faut quand même jamais oublier que la Bretagne est davantage tournée vers l'Angleterre que vers Paris. Et je pense que ça a aussi un impact assez fort sur la musique qui est créée à ce moment-là sur cette scène bretonne. Et puis moi, les nus, juste un souvenir personnel, et ça va résonner avec ce que tu dis, c'est aussi la contamination potentielle. C'est-à-dire que, au tout début de Noir Désir, en 83, on rencontre les nus, ils viennent de jouer à Bordeaux et ils viennent répéter le lendemain de leur concert dans notre cave. Et c'est de suite, ça fonctionne. De suite, ça fonctionne et je rappelle ça parce que c'est important. On dit souvent Noir Désir, il y a l'influence Gun Club, les Doors, etc. Mais on oublie totalement l'espèce de cousinage qu'il y a eu à ce moment-là entre le groupe et les influences, et notamment de Marc Seberg. Je pense à Frédéric Vidalin qui était de Marc Seberg, aussi de Taxi Girl, et ces influences-là sont importantes. Et donc, dans l'espèce d'arborescence que tu décris, et dans les formations, déformations, reformations de groupe, il y a aussi quelque chose de plus transversal, hein, qui méritera sans doute d'être réétudié, mais il ne faut jamais oublier que Noir Désir a repris les nus hein, sur leur album. Donc, voilà. Et ben moi, je suis vraiment super impressionné par la communication. Est-ce que dans la salle, en hurlant, il y a peut-être des remarques ou des questions sur la communication de Philippe?
Les nus et fractures, je voulais en parler avant, mais comme je n'ai pas pu... J'ai pas pu communiquer les images que j'avais prévues, enfin le diaporama que j'avais prévu. J'avais prévu de montrer évidemment la pochette des nus et de parler d'eux un peu plus tôt dans la conférence. Mais évidemment, on peut pas évincer D'Argelos, on peut pas évincer Papaye de cette histoire-là. C'est-à-dire que ils ont été aussi dans Marquis de Sade. Pierre Thomas, c'est pareil. Il est là au début comme batteur, puis il s'en va, puis il revient dans Marc Seberg. Anzia, c'est pareil. Il est là dans l'album de Marquis de Sade. Il compose aussi Smiles. C'est un excellent morceau. Et il est pas de Darcel, il est d'Anzia. Il y en a d'autres. Et c'est lui qui fait des compositions pas mal dans Marc Seberg aussi. Donc, ce sont des personnages qu'il ne faut pas oublier dans cette ramification rennaise.
François, je crois qu'il voulait
parler. François.
Voilà. Merci Philippe, parce que je partage un peu ce que dit. Luc, c'est très intéressant cette circulation des influences et ce que tu appelles la morphologie sonore. Ça me semble, mais justement, ça me questionne sur deux choses. Alors, tu es resté sur la scène rennaise. Je peux bien lier un microcosme particulier. Il n'empêche que tu as montré qu'il y avait des circulations de type première génération punk avec Marie et les garçons et puis Stinky Toys, et donc il y a quand même des connexions qui s'opèrent entre, et sans doute peut-être avec Taxi Girl, donc on va pas vous parler. Et ma question était surtout entre une sorte de clivage que je sens, mais qui a été peut-être annoncé par l'influence de l'Angleterre sur la Bretagne, et puis tu as parlé de Pure tout à la fin, et de me demander s'il n'y avait pas une filiation vraiment anglo-saxonne voulue chez Marquis de Sade et puis qui se tourne autour, parce que j'ai l'impression qu'ils chantent tous en anglais, et, sauf erreur de ma part, hein. Et puis une scène beaucoup plus qui tend plus vers la variété, en fait. On pense évidemment à Dao, l'école de la connexion que tu montres, et puis de Bachung, et qui part vers une enfin, qui dit Disons qu'il y a une frontière entre le rock et la variété qui quand même s'atténue à ce niveau-là, peut-être à cause de la langue. Alors, est-ce que ce choix de la langue anglaise était peut-être pour rester dans une sorte d'underground cold wave, plus lié à des influences comme de type Cure, Joy Division ou New Order ou je ne sais pas, ou est-ce que c'est autre chose, ou est-ce que c'est parce qu'on pense aussi à Indochine forcément, qui est un peu différent, qui est un peu peut-être plus dans une sorte de rock variété, mais qui plonge sans doute ses influences aussi de la même façon dans une certaine cold wave anglo-saxonne au départ, quoi.
Alors, j'ai pas de réponse générale qui soit globale à ça. C'est-à-dire que, bon, tu parles de variété en parlant de Dao. Dao se revendique d'une certaine pop 60s française quand même. Après, bon, je sais pas ce que c'est de la variété, si c'est de la variété ou pas. Chine, c'est vrai que est-ce que c'est plus rock que variété, est-ce que c'est du rock, variété, j'en sais rien. Peu importe. Mais ce que je peux répondre pour Mark Itzad, alors certes, c'était un slogan lié au label, etc., mais ils étaient présentés quand même comme 5 Européens en costume électrique. Il y a des références à l'Allemagne dans le premier Mark Itzad, il y a des références à Konrad Veidt, il y a une citation du cabinet du docteur Caligari, me semble-t-il, je ne sais plus si c'est ce film-là, mais un film de l'expressionnisme allemand, au début de Konrad Veidt. Il y a Fracture qui chante en allemand aussi, il y a des titres en allemand chez Fracture. Et dans Mark Itzad, il y a aussi des titres en français. Donc, on est aussi dans cette espèce de européanisme tel qu'on pouvait le concevoir, je pense, à la fin des années 70. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit le même aujourd'hui. Mais cette espèce d'envie d'être des musiciens européens, avec une influence fondamentale qui est celle de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, à ce moment-là, domine par rapport aux États-Unis la scène, à mon avis, américaine à laquelle il se réfère, est celle de la fin des années 70 avec le Velvet et les dérivés. Mais on est vraiment dans cette espèce de scène punk, post-punk, new wave, celle dont tu parles, hein, Joy Division, il y a Wire aussi qui est extrêmement important, qu'on oublie souvent Wire, et pourtant il y a plein de choses qui se passent chez eux aussi. Il y a évidemment les Sex Pistols qui sont fondamentaux parce qu'ils représentent un petit peu le sommet de l'iceberg, et puis il y a The Cure, effectivement, le Cure du début, le Cure de Edgeley Boys, de 70 Seconds, de Face Pornography, le Cure qui est conduit par Dave Allen, c'est le Cure plus pop, celui de The Door, etc., et qui revient aussi avec un album, comme disait Tingration, à quelque chose de plus... pas d'underground, parce que maintenant, ils ont la renommée, mais avec un son un peu plus proche de revendications de ce que pouvait être leur première période, etc. C'est ce Dave Allen que choisit justement Fracture pour être produit aussi, qui est un type qui leur a apporté énormément. Serge me racontait qu'il a fait les démos, et l'autre a renvoyé un truc en disant qu'il faut faire ci, ça, ça et ça. Et le rôle du producteur forge aussi l'album quand on choisit la bonne personne, je ne sais pas, encore une fois. L'expérience des verrues dans cette affaire-là. À chaque fois que j'ai travaillé sur un album et qu'il y a un producteur ou un ingénieur du son reconnu, le rôle de ces deux personnes-là est fondamental dans la construction de la morphologie sonore de l'album. C'est une chose qui me préoccupe en tant que chercheur. Après, il y a plein d'autres enseignements qui sont dans ce petit livre formidable, hein. Notamment qui est sur Mark Itzad, qui est sur Fracture aussi. Etc. Il n'y a pas les nus, curieusement, je crois. En tout cas, je n'ai pas fait les nus, je n'ai pas vérifié s'ils étaient.
Ça sera pour le deuxième venu.
Ouais, comme Affection Base.
François-Philippe, on va vous couper, mais on pourra toujours faire un apéro Zoom à partir de 21h pendant 6 semaines pour rediscuter de ça.
Ouais.
Voilà.
Alors, merci à tout le monde.
Merci beaucoup. Ah, tu te coupes, toi?
Ouais, je vais devoir vous couper parce que, comme je t'avais dit, je suis pris cet après-midi.
C'est un vrai apéro pas Zoom, c'est ça, ouais, t'as de la chance.
Merci
beaucoup.
Merci à vous tous.
On ne te voit plus à l'écran, mais voilà, on te garde avec nous.
À très vite.